La vocation de l'Église. Lecture du livre des Actes, chapitre 2, versets 37 à 47. Ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur touché de componction, et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Et Pierre leur dit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à soi. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux donc qui reçurent favorablement sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Or, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, et dans la communion, et dans la fraction du pain, et dans les prières. Toute personne fut saisie de crainte, et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient ensemble, et ils avaient toutes choses communes, et ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et les distribuaient à tous, selon que chacun en avait besoin. Et chaque jour, persévérant d'un commun accord dans le temple, et rompant le pain de maison en maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce devant tout le peuple, et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mes frères, depuis quelques années, et plus spécialement depuis cette secousse terrible que notre dernière révolution politique a donnée au pays et au monde, il s'opère dans la tâche du réveil religieux contemporain une transition que l'on pourrait résumer en disant qu'il passe du croyant à l'Église et de la régénération individuelle à la régénération collective. Ne parlons que de ce qui se voit dans l'Église évangélique de France, bien qu'un mouvement semblable se fasse sentir dans toutes les églises évangéliques de la chrétienté. Notre réveil religieux, qui a suivi de près la paix générale, ayant accompli désormais ce qu'on peut appeler sa première génération et entrant dans la seconde, entre en même temps dans une phase nouvelle de son développement. Placé au début en présence d'une incrédulité ou d'une indifférence presque universelle, qui, loin de permettre de porter remède au désordre de l'Église, permettait à peine de le sentir, le réveil n'a guère été occupé que de rallumer la foi éteinte dans le cœur des individus en leur annonçant Jésus-Christ, ce Dieu manifesté en chair, qui a fait par lui-même l'expiation de nos péchés, et qui, de sa pure grâce, par la foi, appelle, justifie, régénère et sauve l'homme perdu par ses œuvres. Mais aujourd'hui, que cette doctrine de vie, qui a paru si étrange il y a 30 ans, peut être tenue pour acquise à la conscience ecclésiastique, aujourd'hui que la facilité avec laquelle elle est reçue de nos troupeaux lui épargne les embarras d'une lutte sérieuse, et tout ensemble lui en refuse le mouvement et l'intérêt, telle est la condition des choses humaines, l'instinct du réveil le pousse à de nouvelles conquêtes, par de nouveaux combats. Tout jaloux qu'il est d'annoncer la vérité évangélique à qui l'ignore et de la défendre contre qui la nie, il n'en fait plus son affaire principale. Cette position-là est prise et il aspire, tout en la gardant, à se porter en avant pour en occuper une autre. Cette autre position, c'est la réalisation pratique de la foi chrétienne dans la vie, non plus de tels ou de tels individus isolés, mais d'une société au sein de laquelle elle puisse à la fois s'étendre et se concentrer en s'y développant tout entière et en tout sens. En deux mots, aux croyants dans l'Église, le temps est venu de faire succéder l'Église des croyants. La vérité de cette remarque éclate dans tout ce qui nous entoure. Qui ne voit qu'à tort ou à raison, la question de l'Église grandit chez nous d'année en année, partout où le réveil a pénétré. Qui ne voit qu'en religion comme en politique, les grandes querelles de l'époque que sont les querelles intérieures, et que le vrai débat est moins aujourd'hui de croyant à non-croyant sur le fond de l'Évangile, que de croyant à croyant sur la réforme des églises anciennes et sur la constitution de l'Église nouvelle. Qui ne voit que les controverses les plus agitées dans nos journaux, dans nos brochures, dans nos livres, peuvent toutes se résumer en un seul mot, l'Église, et qu'il n'est pas jusqu'à la doctrine elle-même qui ne soit entraînée dans ce mouvement et qui, par un renversement étrange, n'emprunte à l'Église l'appui qu'elle devrait lui donner, qui ne voit que les hommes pieux qui sortent des églises établies et ceux qui y demeurent ne diffèrent pas tant sur les conditions de l'Église fidèle que sur les moyens à prendre pour les réaliser, et que tout le peuple de Dieu travaille d'un même cœur à l'Église future, ainsi que Noé à son arche, comme à l'unique refuge contre le déluge à venir. Que dis-je? Je pourrais en appeler aux instincts du siècle lui-même, tout étranger qu'il semble à cette matière. Également fatigué, et de théories qui l'égare, et de réalités qui le trompent, le siècle a soif d'une doctrine à la fois pratique et désintéressée, pour soulager les maux de l'humanité et la mettre en possession des avantages que le Créateur lui a destinés. Il rêve, il poursuit une société nouvelle, fondée sur le sacrifice et la charité. Il lui reste à comprendre, quoiqu'il semble commencer de l'entrevoir, que Jésus-Christ, qui lui a seul suggéré l'idée de ce royaume de Dieu sur la terre, peut seul aussi lui en donner l'accomplissement. Les principes de Jésus-Christ ne pouvant recevoir leur application que dans la société de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la vraie Église chrétienne. Le siècle le sent confusément, et il aspire à sa manière à une Église chrétienne digne de ce nom et fidèle à sa vocation. Je crois donc répondre à un besoin général de l'Église contemporaine en prenant pour sujet de ce discours cette question. Quelle est la vocation de l'Église ? Et que doit être l'Église pour y répondre? Par l'Église, j'entends ici non l'Église particulière à laquelle je suis attaché, mais l'Église visible de Jésus-Christ en général, et cette Église envisagée moins telle qu'elle est que telle qu'elle doit être. Je me place à un point de vue élevé, spirituel, d'où la tâche que je vais étudier est également imposée à toutes les Églises contemporaines. Hélas, et ne pourrais-je pas ajouter, la réforme que je vais presser également nécessaire pour toutes. En cherchant à peindre la vocation de l'Église, je pourrais toucher un double écueil, celui de la poésie, si je faisais un tableau purement imaginaire, et celui de l'histoire, si je rabaissais ce qui doit être au niveau de ce qui est. Je ne vois pas de plus sûr moyen pour éviter à la fois l'un et l'autre que de prendre pour type l'Église primitive de Jérusalem, où la réalité vivante s'unit à une beauté presque idéale. Aussi bien, cette Église est la première décrite dans le Nouveau Testament, et la seule qui le soit avec quelques détails. C'est là que nous surprenons l'Église à sa naissance, avant qu'elle ait eu le temps de cacher sous des formes locales ces grands traits simples et primitifs que j'ai à cœur de dégager. Ou du moins s'il s'y ajoute certaines formes locales, car elles sont inséparables de l'existence, ce sont les plus naïves, les plus enfantines, et s'il m'est permis d'ainsi dire, celles qui sont le plus près de la vie. L'Église de Jérusalem est l'Église vivante, mais non encore organisée. C'est précisément ce qu'il faut pour l'étude qui nous occupe. Le Saint-Esprit lui-même en a ainsi jugé, puisqu'il ne présente à notre imitation aucune église organisée, et qu'il soustrait à nos regards celle même de Jérusalem dès qu'elle revêt une organisation arrêtée. À cette raison, qui eût suffi pour me faire choisir ce texte, je devrais dire, peut-être pour l'accepter, tant il s'offrait de soi-même à mon esprit, se joint une raison de charité. Mon sujet de ce jour n'est pas exempt d'une certaine délicatesse, par la divergence des meilleurs chrétiens sur la question de l'Église. Mais que peut-il rester de cette délicatesse quand on transporte la question dans l'Église de Jérusalem, c'est-à-dire sur le terrain même de l'amour fraternel? C'est le bonheur de mon texte que, laissant dans l'ombre tous ces points de constitution qui partagent les enfants de Dieu, il étale à nos yeux un trésor commun de charité qu'ils sont tous également heureux de contempler, également fier de montrer au monde. L'Église de Jérusalem, étant la première que le monde ait vue, nous instruit déjà par son existence même, où se révèle pour la première fois le grand fait de l'Église et sa vocation générale. Cette vocation ne saurait être ni plus brièvement, ni plus complètement résumée qu'elle l'a été par les Écritures, lorsqu'elles définissent l'Église, le corps de Jésus-Christ. Plus on réfléchira sur cette définition, plus on y trouvera de vérité et de lumière. L'Église est à Jésus-Christ ce qu'est à notre âme le corps par lequel elle est mise en rapport avec le monde extérieur. Le corps annonce la présence et transmet l'action de l'âme. L'Église sert de signe à la présence de Jésus-Christ et d'instrument à son action. Ce rapprochement m'en rappelle un autre que l'Écriture a trouvé dans le même ordre de pensée, creusé plus profondément. L'Église est à Jésus-Christ ce qu'est au Dieu que personne ne vit jamais, ce Fils unique qui nous l'a fait connaître, et en qui toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Comme Jésus-Christ a rendu visible dans son humanité, mieux que n'a fait le monde avec tous ses ouvrages, les choses invisibles de Dieu, tellement qu'il a pu dire « Celui qui m'a vu a vu mon Père », ainsi l'Église, recueillant pour les distribuer entre ses membres les grâces infiniment diverses dont le siège et la source est en Jésus-Christ, est devenue ainsi, selon une glorieuse expression de saint Paul, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, rend en quelque sorte au monde Jésus-Christ, devenu invisible au regard charnel, mais habitant en elle jusqu'à la fin par son esprit. Elle fait plus encore que de le rendre à qui l'a vu. Elle le montre à ceux-là même qui ne l'ont jamais vu. Pour lui, durant les jours de sa chair, il n'a été visible que dans un seul pays et pour un seul peuple. Mais son Église, répandue sous tous les climats, va porter à la terre entière le nom et l'image de son Sauveur et faire passer partout cet idéal de l'espèce humaine qui réside en lui, de sa réalité historique à une réalité vivante et toujours contemporaine. Sentez-vous bien tout le prix de cette mission. L'Église ne crée pas la vie, cela est vrai, mais elle la recueille et la concentre, par où elle enfante une vie d'ensemble qui a son utilité propre tout en réagissant avec puissance sur la vie individuelle dont elle émane. Les croyances sont avant l'Église, et chacun d'eux représente pour sa part Jésus-Christ sur la terre, étant membre de son corps, de sa chair et de ses os. Mais ses membres sont isolés et privés de vie commune, ou tout au moins de vie commune appréciable pour l'œil de l'homme, jusqu'au jour que le Saint-Esprit les rapproche, les adapte les uns aux autres et les assemble en un corps qui est l'Église. Par là, tout à la fois, chacun des membres, mis en la place et soumis aux rapports qui lui conviennent, accomplira dans les meilleures conditions possibles la mission qui lui est propre, et leur réunion donnera naissance à un être distinct et harmonique qui manifestera, disons mieux, qui personnifiera Jésus-Christ et qui portera la vie chrétienne à la plus haute perfection où elle puisse atteindre, par une merveilleuse combinaison de la vie individuelle avec la vie collective. C'est donc dans l'Église qu'il faut chercher le déploiement pratique, réel, visible, de la vie chrétienne, tant intérieure qu'extérieure. C'est à l'Église qu'il faut demander et l'accroissement achevé de Jésus-Christ dans les siens et la complète révélation de Jésus-Christ devant le monde. C'est l'Église, enfin, qui est le dernier mot de l'Évangile. Elle l'est d'autant mieux, remarquez-le bien, qu'elle l'est par la vertu secrète et inconsciente de la vie. L'action commune de l'Église diffère essentiellement d'avec l'action concertée d'une association. L'action de l'Église est le fruit, non du concert, mais de l'harmonie. Elle s'exerce non par voie de délibération, mais spirituellement, spontanément et sans qu'elle s'en rende compte à soi-même. Je ne puis la comparer qu'à l'action commune du corps et de l'âme, agissant dans un accord d'autant plus parfait qu'il n'est pas dû à un parti pris de se rapprocher et de s'entendre. Toute cette belle théorie s'est réalisée dans l'Église de Jérusalem. Elle rend Jésus-Christ au monde pour lequel il semblait perdu. Ses ennemis se flattaient de l'avoir à tout jamais banni de la terre. Mais le voici qui reparaît sur la scène, qui se promène dans les rues de Jérusalem, qui visite le temple, qui guérit les malades, qui remet les péchés. Le voici qui fait tout cela comme autrefois, que dis-je, mieux qu'autrefois, dans la personne de son Église, qui lui sert comme d'enveloppe visible mais transparente. Grâce à l'Église, la présence de Jésus-Christ n'a jamais été plus sensible que depuis qu'elle est devenue invisible et spirituelle. C'est que la fondation de l'Église est l'ouvrage du Saint-Esprit, qui révèle Jésus-Christ au monde plus clairement que ne l'a fait Jésus-Christ lui-même. Tandis que Jésus-Christ est sur la terre, il se renferme dans un ministère individuel. Il appelle autour de lui des disciples, qu'il amène à la foi par ses leçons et par les faits de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Mais l'Église, il ne l'établit pas, quoiqu'il la nomme comme si elle était déjà là. On dirait qu'il en devance les temps par une sainte impatience de la voir paraître. Ce temps arrive enfin, et c'est le temps, c'est le propre jour où le Saint-Esprit est répandu, l'Esprit descend du ciel, l'Église naît sur la terre. Il suffit de lire le chapitre qui m'a fourni mon sujet, et plus spécialement les versets qui précèdent mon texte, pour reconnaître que cette nouveauté inouïe, dont l'Église de Jérusalem offre le spectacle au monde, est tout entière l'œuvre et la gloire du Saint-Esprit. C'est lui qui appelle les disciples de Jésus-Christ et les rassemble au nom de Jésus-Christ pour en former le corps de Jésus-Christ. Cette place prépondérante du Saint-Esprit se révèle par l'ordre même dans lequel les choses se passent ici et qui est inverse de celui qui avait été observé dans la création de l'homme. Dans la création de l'homme, le corps naît le premier et reçoit ensuite de Dieu le souffle qui en fait une âme vivante. Dans la formation de l'Église, aussi bien que dans l'incarnation du Fils de Dieu, c'est l'Esprit éternel qui vient le premier et qui appelle à lui le corps où il veut se rendre visible et par lequel il veut agir sur la terre. Alors, à côté de la prédication des apôtres, que ce même Esprit a revêtu d'une vertu nouvelle, commence une prédication plus puissante encore, celle du peuple de Dieu. Ce que les apôtres annonçaient, il le montre, et la parole se convertit en action dans l'Église. Cette transition de Jésus-Christ au Saint-Esprit et des premiers croyants à la première Église offre quelque analogie avec celle que nous remarquions tantôt parmi nous et par laquelle notre réveil passe de sa première phase à la seconde. C'est qu'elle est dans la nature des choses qui ne change point avec le temps. L'Évangile, par son caractère spirituel, procède du dedans au dehors, et commence par agir sur l'individu, pour arriver plus tard par l'individu à une action collective. Mais cette action collective, qui est la vocation propre de l'Église, en quoi consiste-t-elle? C'est encore le tableau de l'Église primitive qui va nous l'apprendre. Nous n'avons qu'à suivre l'ordre que s'est proposé l'auteur sacré. Il envisage l'Église sous un triple rapport. Son rapport à Dieu, dont elle émane, son rapport aux croyants, dont elle est formée, son rapport au monde, dont elle se sépare. De là, trois applications de la vie du Saint-Esprit dans l'Église, la vie religieuse quant à Dieu, la vie fraternelle quant aux croyants, la vie missionnaire quant au monde. La vie de l'Église commence en Dieu. Il persévérait dans la doctrine des apôtres et dans la communion et dans la fraction du pain, et dans les prières. Telle est la vie religieuse de l'Église primitive et le secret ressort de la vie civile de ses membres. Je dis de leur vie civile, car rien ne donne à penser qu'ils se soient soustraits aux soins de la vie active, publique ou privée. L'Église n'est pas un couvent. Entre la vie stérile du cloître et la vie profane du siècle, il y a une vie religieuse qui se remplit du ciel, mais pour le transporter sur la terre, et qui se retrempe incessamment dans la communion de Dieu pour l'accomplissement de sa tâche humaine. Elle s'y retrempe non par les contemplations d'un mysticisme vide et présomptueux, mais par l'humble et obéissant usage de ces exercices spirituels que Dieu lui-même a prescrits et qui servent à sa grâce comme de conduit pour se répandre. Cette vie est l'âme de l'Église primitive. Les voici, ces chrétiens de Jérusalem, puisant à l'envie dans ses canaux célestes avec une persévérance qui dit tout, à elle seule sur leurs dispositions intérieures, parce qu'elle suppose la foi, l'ardeur et tout le reste. La parole de Dieu, le culte commun, les sacrements, la prière, aucune des armes de la Sainte Guerre n'est négligée par ces hommes fidèles, jaloux de se fortifier dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa force. La parole de Dieu, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres et sur les pas de ces témoins inspirés de Jésus-Christ qui, non content d'avoir confessé la vérité salutaire au jour de la Pentecôte, continuent de la confirmer et de la développer, en public et par les maisons. Ils pénètrent toujours plus avant dans la connaissance et dans l'intelligence des Écritures divines. Le culte commun, ils persévéraient dans la communion, par où l'on doit entendre ici la vie commune religieuse, dont les sacrements et les prières publiques, nommées aussitôt après, sont les deux applications principales. Ils ont compris que les croyants peuvent plus rassembler qu'isoler, soit pour fléchir le cœur du Seigneur, soit pour réveiller les consciences endormies, soit enfin pour s'affermir mutuellement dans la voie de Dieu, s'excitant à la charité et aux bonnes œuvres, et ils n'ont garde d'abandonner des réunions qui ont tant de promesses. Les sacrements, ils persévéraient dans la fraction du pain, c'est-à-dire dans la scène du Seigneur. Les sacrements sont pour eux, selon une belle définition de saint Augustin, des signes visibles de la grâce invisible de Dieu, ou, selon la définition plus simple encore et plus profonde de saint Paul, des sceaux de la justice de la foi. Ils ont commencé par être baptisés en rémission des péchés, mais baptisés avec connaissance de cause et en vertu d'une confession personnelle. Et maintenant, admis dans l'Église par ce sacrement de la naissance, ils se fortifient dans la foi par le sacrement de la nourriture, célébré fréquemment à la suite de leurs agapes fraternelles ou même tous les jours à la suite de leurs repas de famille. Enfin, la prière. Ils persévéraient dans les prières. C'est par de constantes prières que les 120 de la chambre haute avaient appelé la venue du Saint-Esprit et la fondation de l'Église. C'est aussi par de constantes prières que l'Église naissante s'inaugure et s'affermit, en appelant dans son sein une mesure toujours plus abondante de cet Esprit auquel elle doit tout ce qu'elle est et qui seul peut donner la vie et à la parole et au culte et au sacrement. Ainsi nourrie de la parole de Dieu par la prédication apostolique, mise en rapport avec Dieu par un culte spirituel, marquée des sceaux de Dieu par les sacrements, remplie de l'Esprit de Dieu par la prière, voilà l'Église. L'Église, cette image vivante de Dieu qu'il ne faut que contempler pour reconnaître dans ses traits celui qu'elle annonce au monde. Ayant, comme Moïse, vécu avec Dieu sur la montagne, elle en rapporte, comme lui dans la plaine, un visage resplendissant où se peignent et se reflètent les perfections invisibles de ce Dieu trois fois saint. Voulez-vous voir, comme à l'œil, les titres de la foi et sa gloire céleste? Il y a une société sur la terre qui a mission d'y rendre visibles les choses du ciel en leur donnant un corps et une réalité pratique, une société où la vérité divine de la parole se déclare par les fruits qu'elle enfante, le prix du culte commun par la bénédiction qui l'accompagne, la vertu salutaire du sacrement par le bien qu'il fait à l'âme, la puissance de la prière par des prières aussi souvent exaucées qu'entendues. Cette société, c'est l'Église. Voulez-vous découvrir un lieu de repos ou poser le pied au sein de ce matérialisme pratique qui envahit aujourd'hui la race humaine et au travers de ces agitations convulsives qu'il y soulève de toutes parts? Il y a une société sur la terre qui s'élève au-dessus du monde, tout en demeurant dans le monde, parce qu'elle voit toutes choses en Dieu et Dieu en toutes choses. Une société qui, dans ces hautes régions qui lui sont familières, respire une paix sereine autant qu'elle est pure, non cette paix d'étourdissement où le monde endort ses victimes, non cette paix de justice propre que tant de cœurs abusés demandent aux œuvres, aux pénitences ou à la solitude, mais cette paix de la croix que Jésus-Christ crucifié dispense aux siens, qu'il appelle tour à tour la paix et sa paix, cette société, c'est l'Église. Voulez-vous retrouver enfin Jésus-Christ quelque part dans le monde, en y trouvant des hommes qui lui servent d'organes et de représentants auprès de l'humanité, comme il en a servi lui-même auprès du Père? Il y a une société sur la terre qui a communion avec Jésus-Christ qui possède Jésus-Christ, qui réalise Jésus-Christ, qui vit de Jésus-Christ, qui demeure en Jésus-Christ et en qui Jésus-Christ demeure. Une société qui peut dire avec l'apôtre Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Cette société, c'est l'Église. L'Église ? Mais quelle Église ? L'Église contemporaine ? Je ne sais. Mais l'Église primitive ? L'Église telle qu'elle est ? Je ne sais. Mais l'Église telle qu'elle doit être ? L'Église enfin qui est l'Église et qui, si elle n'existe point parmi nous, doit être cherchée par une réforme. Celui qui aime Dieu aime aussi celui qui est engendré de lui. La vie divine ne peut animer l'Église sans y enfanter la vie fraternelle. L'amour fraternel, ce courant évangélique qui s'établit entre deux cœurs où Jésus-Christ habite, comme si celui qui les remplit l'un et l'autre voulait remplir encore tout l'entre-deux, qu'est-ce autre chose que l'amour chrétien porté à sa plus haute puissance ? Que si cet amour fraternel devenait le trésor commun d'une Église entière, dont il rattacherait les membres entre eux, chacun à tous et tous à chacun, par des liens aussi forts que multipliés, quelle gloire, quelle énergie d'amour déployée par cette société unique qui serait moins une société qu'une famille de frères. Ce ne serait pourtant rien de plus que ce que mon texte nous montre dans l'Église primitive de Jérusalem. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient toutes choses communes. Et ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et les distribuaient à tous, selon que chacun en avait besoin. Et encore, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, et pas un d'eux ne disait qu'aucune des choses qu'ils possédaient lui appartint en propre, mais toutes choses étaient communes entre eux. Voilà dans l'Église primitive le trait saillant qui, plus que tout le reste, a frappé et le monde, et les apôtres, et l'historien sacré, c'est-à-dire le Saint-Esprit lui-même. L'idéal proclamé par les apôtres, l'Église le réalise. La charité qu'il prêche, elle la vit, image empreinte de la personne du Christ comme il l'avait été de celle du Père. L'Église traduit l'amour de Dieu en amour fraternel et l'amour fraternel en vie commune, et domptant l'amour de l'argent, elle donne à la terre un spectacle qu'avant elle aucune société n'avait offert, aucune religion conçue, aucune philosophie rêvée, et qu'après elle, aucune communauté n'a pu reproduire sans l'altérer plus ou moins. Car les imitations qui en ont été essayées dans un esprit vraiment chrétien n'ont pu se soustraire entièrement à la tentation de gêner par des règles humaines cette liberté de l'esprit à laquelle Jérusalem devait sa prospérité. Et quant à certaines imitations contemporaines, si elle mérite un nom aussi sérieux, qui semble n'invoquer les mots de l'Évangile que pour couvrir l'abandon des choses, et qui, après avoir débuté par la bonté naturelle du cœur de l'homme, finissent par la sanctification de la chair, elles ont déjà commencé de faire voir, et feraient voir encore en proportion de la liberté qu'il leur serait laissée de se produire, qu'entre leur fraternité prétendue et la fraternité de Jérusalem, le rapport n'est que dans les apparences extérieures et que ce rapport même tel quel ne saurait subsister longtemps. Quelques mots d'éclaircissement sont ici nécessaires. Par la vie commune qui a caractérisé l'Église de Jérusalem, j'entends la manifestation visible de l'amour caché dans les cœurs, mais cette manifestation entendue dans le sens le plus large et dégagée d'avec la spécialité des applications. Cette vie commune ne consistait pas dans une commune organisation. Si les premiers chrétiens étaient ensemble, ces mots expliqués par ceux-ci, persévérant d'un commun accord dans le temple et rompant le pain de maison en maison, doivent s'entendre ou d'une réunion générale qui se formait dans le temple pour la célébration du culte public, ou de diverses réunions partielles que provoquaient dans les maisons chrétiennes soit le besoin de s'édifier mutuellement dans le Seigneur, soit aussi les rapports de parenté ou d'amitié sanctifiés par l'Évangile. Réunion en tout cas mobile et temporaire, qui laissait au commerce intérieur l'entière liberté de son jeu propre et qui n'absorbait en aucune manière la vie privée dans la vie publique. Les premiers chrétiens saisissaient les occasions, publiques ou privées, de se rapprocher les uns des autres, parce qu'on se rapproche quand on s'aime. Mais ce rapprochement, purement spirituel, n'avait aucun caractère obligatoire, constitutif ou, comme on dit aujourd'hui, social. Cette vie commune ne consistait pas non plus dans la communauté des biens telle qu'on l'a entendu préconiser de nos jours. Malgré certaines apparences, une étude plus approfondie du texte fait voir qu'il s'agit ici non d'une répartition imposée, concertée, proportionnelle, ou pour me servir encore une fois du terme technique social, mais d'une communication volontaire dont la charité individuelle faisait tous les frais et qui, dépouillant sans contrainte aucune celui qui possédait en faveur de celui qui ne possédait pas, laissait subsister sans réserve et le droit de propriété chez le donnant et le devoir de la reconnaissance chez le recevant. De ce système à l'autre, il y a toute la distance de la grâce à la règle ou de l'évangile à la loi. Rien de plus évangélique que Jérusalem, rien de plus légal que le phalanstère. Mais enfin, cette vie commune de Jérusalem, même ainsi réduite à ses proportions véritables, veux-je qu'elle soit transportée tout d'une pièce dans l'Église contemporaine ? Non, je n'ose l'affirmer ni que cela soit praticable, ni même que cela soit désirable. Aussi bien cette vie commune que l'Église primitive de Jérusalem a pratiquée ne s'est pas, que nous sachions, étendue à aucune autre Église apostolique. Serait-ce que l'expérience y aurait fait découvrir quelques côtés dangereux, tels que les plus belles choses en peuvent offrir ? Cette supposition n'a rien d'invraisemblable, car on comprend à peine comment la forme que l'amour fraternel avait revêtue dans Jérusalem pouvait passer à l'état de règle ou seulement d'usage permanent, sans compromettre la discipline de l'Église par l'appât que sa charité tendait à la cupidité du pauvre. Vous m'écoutez, la plupart de vous, mes chers frères, avec une approbation singulière. Mes explications vous rassurent peu à peu contre une vague frayeur de socialisme que vous inspirez, je ne dirai pas mon discours, mais mon texte. Nous nous trouverons bien d'accord en cet endroit. Reste à savoir si nous le serons jusqu'au bout. Ah, gardez-vous de croire que sous prétexte d'expliquer la parole de mon maître, j'ai entendu l'effacer. Malheur à moi si, habile à opposer la charité évangélique aux prétentions subversives du pauvre, je n'avais pas le courage de l'opposer également à l'égoïsme honnête du riche. Sachez-le bien, moins je suis jaloux de la lettre, plus je suis jaloux de l'esprit. Et si je me montre coulant sur la forme de l'exemple donné à l'Église par Jérusalem, c'est pour m'acquérir le droit d'être d'autant plus inflexible sur le fond. Que la vie commune telle qu'elle de Jérusalem soit prise dans son acception la plus large et dégagée d'avec la spécialité des applications. J'y consens. Encore une fois, je le demande moi-même. Mais j'entends la maintenir tout entière dans son essence, qui est la manifestation visible de l'amour fraternel caché dans les cœurs. Désirable ou non, transférable ou non, le partage de Jérusalem a passé sur la terre comme l'éclair d'une charité céleste qui devait enfanter dans les âges suivants de l'Église des imitations et non des copies pour lui montrer, par un éclatant exemple, non pas comment la charité doit être exercée, mais de quoi elle est capable quand elle prend son modèle en Jésus-Christ et en lui crucifié. On ne saurait se faire une plus juste idée de l'amour qui unissait entre eux les membres de l'Église primitive qu'en les comparant, comme je le faisais tantôt, à une famille de frères. Dans une famille bien réglée et tendrement unie, les frères et les sœurs, dispersés par le cours de la vie, forment des établissements séparés et occupent des habitations distinctes. Mais l'affection mutuelle qui est enracinée dans leur cœur les pousse à se rapprocher, à se réunir chaque fois que l'occasion s'en présente, malgré la distance des lieux et les empêchements des affaires. En même temps, dans une telle famille, les fortunes peuvent être inégales et chacun administre la sienne pour son propre compte, mais que l'un vienne à manquer des biens de la vie, tous les autres s'empressent de lui venir en aide et de suppléer à son indigence par leur abondance. Je parle de la famille telle qu'elle doit être. Eh bien, telle m'est apparue, l'église de Jérusalem, dans le tableau charmant de mon texte. Rien de plus, mais rien de moins. Telle aussi devrait être dans tous les temps l'église de Jésus-Christ. Telle elle sera, si elle mérite le nom qu'elle porte, une famille dont les membres, s'aimant en frères d'une affection cordiale, se cherchent les uns les autres au sein d'un monde fou et froid. Une famille dont les membres sont toujours prêts à se faire part entre eux, selon le besoin, de leur huile, de leur vin et de leur froment. Où cet esprit aura pénétré, quelque nom qu'il reçoive, quelque forme qu'il emprunte, là et seulement là, Jérusalem aura été rétablie et remise, selon la prière du prophète, en un état renommé sur la terre. Là aura été réalisée, pour la consolation de l'Église et pour l'instruction du monde, une autre prière plus touchante et plus solennelle encore, celle de Jésus pour ses disciples qu'il se prépare à quitter. Père, qu'ils soient un comme nous sommes un. Là, cette unité qui est dans les cœurs, se faisant jour dans les œuvres, n'importe par quel chemin, provoquera encore une fois ce cri de la conscience humaine. Voyez comme ils s'aiment. Ce cri intelligent et instinctif qui constate dans l'amour mutuel des enfants de Dieu l'invasion d'un ordre céleste au sein de l'humanité déchue. Mais si telle est la vraie Église, où est-elle cette vraie Église? Où est-elle cette famille de frères? Des frères, des sœurs, des chrétiens exceptionnels pour lesquels le sacrifice est une réalité, que dis-je, un besoin, un attrait. Il y en a toujours eu, grâce à Dieu, et en bien cherchant, j'en trouverai aussi à notre époque. Mais une société de tels frères, mais l'Église telle que je la demande, l'avons-nous? Sommes-nous prêts de la voir? Je ne sais, mais si nous ne l'avons pas, la vraie Église nous manque et nous avons besoin d'une réforme. L'amour des frères n'est pas l'indifférence pour le monde, pour ce monde auquel nous appartenions hier et que Dieu a tant aimé que de donner son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'œuvre de compassion divine que Jésus-Christ est venu faire dans le monde est aussi celle qu'il y a donnée à faire à son Église. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Aussi, la vraie Église a toujours exercé le vrai prosélytisme. Elle a senti qu'elle avait, comme son maître, vocation de Dieu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Cette vocation, écoutez comment elle est remplie par l'Église de Jérusalem, et avec quel succès. Et chaque jour, persévérant d'un commun accord dans le temple, et rompant le pain de maison en maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et avec simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce devant tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église ceux qui étaient sauvés, ou comme notre historien l'exprime ailleurs, ceux qui étaient disposés pour la vie éternelle. Le monde, tout monde qu'il est, renferme, grâce à Dieu, bien des gens qui s'appliquent à réaliser l'idéal de félicité sainte qu'ils portent au-dedans d'eux, et qui, ne trouvant jamais ce qu'ils cherchent, d'autant plus mécontent de la vie qu'il lui avait plus demandé, triste par instinct de bonheur, oserais-je dire sceptique par instinct de foi, vivent l'oreille au guet, l'œil attentif, comme s'ils attendaient je ne sais quelle délivrance inattendue, à laquelle ils ne peuvent jamais ni parvenir, ni renoncer. Mettez des esprits de cette trempe en présence de l'Église primitive de Jérusalem, dans cette assemblée de croyants en Jésus-Christ. Ils trouvent quelque chose de ce qu'ils auraient trouvé en Jésus-Christ lui-même. Ils y trouvent, passé du rêve dans la vie et comme descendu du ciel en terre, cet idéal qui leur avait échappé partout ailleurs, mais qu'une voix intérieure leur avait promis, comme au vieux Siméon, qu'ils verraient avant de mourir. Devant ce spectacle, tour à tour pénétrés d'une crainte respectueuse et attirés par une tendre confiance, ils cèdent à une grâce secrète et irrésistible. Ils entrent dans une sorte de courant spirituel où l'on ne saurait s'engager sans le suivre jusqu'au bout. Et déjà, les voici qui font partie de cette Église qu'ils pensaient ne faire qu'admirer, et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église ceux qui se sauvaient. Les nouveaux convertis se comptent par milliers dans un jour, et en quelques années, leur nombre s'élève à des dizaines de milliers. Rendons-nous bien compte de la voie par laquelle s'obtiennent ces magnifiques succès, capables d'exciter la sainte jalousie de toute Église fidèle. Au reste, je leur donnerais un autre nom, si j'en savais un, celui de succès leur convenant mal, par l'idée de résolution et d'effort qu'ils réveillent. L'Église de Jérusalem produit ses milliers de conversions, moins comme un artisan son ouvrage que comme un arbre son fruit, moins par une action directe et calculée que par une action indirecte et presque ignorante d'elle-même. Ce n'est pas qu'une action directe ne soit exercée. Assurément, l'Évangile est proclamé dans Jérusalem, incessamment proclamé. Il l'est par les apôtres. Leur voix peut bien accroître l'Église après l'avoir enfantée et ajouter d'autres disciples à ces 3 000 qu'elle a réveillés dans le seul jour de Pentecôte. Il l'est par ses nouveaux disciples. Je me les figure se répandant par la ville, racontant en tout lieu les faits de Jésus-Christ, montrant la prophétie accomplie dans sa personne, et mieux encore, tournant les relations sociales et les rapports de la vie en autant de moyens d'annoncer leur maître à ceux qui ne l'ont pas encore connu. Tout ce travail d'évangélisation entre pour sa part, pour sa large part, dans les succès missionnaires de l'Église primitive. Mais là n'en est pourtant pas le secret. L'action nouvelle, l'action entraînante, l'action décisive, ce n'est pas la directe, c'est l'indirecte. Ce n'est pas celle de la parole, c'est celle de la vie. Ce n'est pas celle des apôtres, c'est celle de l'Église. Pour sentir la vérité de cette réflexion, supposez, mon cher auditeur, que vous eussiez été admis à contempler un des jours de ce Fils de l'homme dont l'Église est le corps, le représentant sur la terre. Qu'est-ce, pensez-vous, qui vous aurait le plus fortement attiré à Jésus et à sa doctrine? Quelque puissance que vous eussiez admirée dans les prodiges semés par ses mains? Quelque autorité que vous eussiez sentie dans les paroles de grâce qui tombaient de ses lèvres? Je me trompe, ou ce qui vous aurait à la fois le plus profondément touché et le plus irrésistiblement subjugué, ce n'est ni cette puissance ni cette autorité. C'est plutôt cette vie toute d'obéissance, de charité, de renoncement. C'est ce je ne sais quoi de saint et d'aimant qui se peint dans son regard, qui respire dans tout son être et qui rend visible en lui le Dieu invisible. Eh bien, il y avait dans l'Église de Jérusalem quelque chose de semblable qui lui gagnait les cœurs plus que la parole, qui les aurait gagnés sans parole. C'était la nouveauté inouïe du spectacle moral qu'elle offrait aux yeux. C'était cette île de sainteté, d'amour et de paix qui venait de surgir dans un jour de grâce au sein de cet océan de péché, d'égoïsme et d'agitation que nous appelons le monde, apportant à la terre comme un autre Éden des fruits si délicieux qu'on ne les eût attendus que du ciel. Devant cette démonstration d'esprit et de puissance, plus de doutes, plus d'objections possibles, on n'en cherche plus, on n'en admet plus, on se rend et l'on est heureux de se rendre, à moins qu'on ne soit un Caïn qui tue son frère parce que ses œuvres sont mauvaises et que celles de son frère sont justes. Loin de m'étonner après cela que les 3 000 croissent en quelques jours jusqu'à 5 000 et ces 5 000 en quelques années jusqu'à des dizaines de milliers, je vous l'aurais prédit, avec de tels auxiliaires, la parole est toute puissante. Une telle Église rend à la prédication des apôtres plus encore qu'elle ne reçut d'elle. Reste à savoir, mes chers frères, si cette action à la fois si énergique et si étendue devait être le privilège exclusif de l'Église primitive, et si toute ambition d'en exercer une semblable sur la multitude qui nous entoure nous est à jamais interdite. Et pourquoi le serait-elle ? Pourquoi ces 3 000 ont-ils pu réveiller l'attention des 120 000 habitants de Jérusalem, pour ne pas dire des 2 millions qui s'y pressaient dans les fêtes solennelles? Et serions-nous condamnés, nous, héritiers de leur doctrine et imitateurs de leur foi, à passer inaperçus au milieu de ce peuple incrédule qui nous enveloppe et nous absorbe? Pourquoi les chrétiens de Jérusalem et du 1er siècle ont-ils recueilli des fruits si abondants de leur travail, dirais-je, ou de leur seule présence dans Jérusalem, en attendant les fruits plus abondants qu'ils en devaient recueillir plus tard dans la Judée et dans tout le monde? Et nous résignerions-nous tranquillement, nous, chrétiens de Paris et du 19e siècle, au cauchemar de nos appels perdus dans le désert, de nos coups d'épée donnés dans le vide et de notre évangile jeté sur la face du monde, sans que personne presque daigne se baisser pour le ramasser. Pourquoi, si ce n'est parce qu'héritiers de leur doctrine, nous ne le sommes pas de leurs œuvres? Parce qu'imitateurs de leur foi, nous ne le sommes pas de leur amour? En deux mots, parce que, présentant au monde la même parole, nous ne lui offrons pas le même spectacle. Il y a des croyants parmi nous, grâce à Dieu, il y en a de sincères, d'exemplaires, mais cette société des croyants, cette famille céleste, cette oasis d'amour fraternel dans le désert, qui frappe dans Jérusalem jusqu'aux regards les plus distraits, où la trouverait, au milieu de nous, l'œil même le plus attentif, le plus bienveillant. Frappons sur notre poitrine, mes frères, avant de frapper sur celle d'autrui. Ne calomnions pas notre génération. Toute éteinte qui est la croyance, toute matérielle qui est la vie, notre siècle n'est pas plus fermé que notre aux impressions de la vérité, de la sainteté, de la charité. Que dis-je? Ce siècle, si mystérieusement mêlé de bien et de mal, n'a-t-il pas certains côtés qui le prédisposent pour cette influence salutaire? Dans ces rêves d'une société nouvelle qui agite notre époque et qui, comme cette tempête décrite dans le psaume 107, tour à tour l'élève au plus haut des cieux et le précipite au fond des abîmes, n'y a-t-il donc rien de généreux, rien de légitime, rien d'emprunté à l'esprit de Jésus-Christ et au souvenir de Jérusalem? Jusque dans ces tentatives infructueuses, quand elles ne sont pas ridicules ou funestes, n'y a-t-il pas de quoi lui ouvrir les yeux et lui rendre plus sensible, ne fût-ce que par le contraste, une expérience heureuse comme l'a été celle de Jérusalem et qui ne devrait son succès qu'à la présence de Jésus-Christ et au principe de son évangile? Oui, si l'Église primitive de Jérusalem était aujourd'hui transportée dans Paris, Jérusalem est premier siècle pour l'esprit, Paris est 19e siècle pour la forme, ces 3000 de la foi et de la charité, cette église du renoncement et de l'amour fraternel, cet évangile pris au sérieux, ferait ce que n'ont jamais pu faire ni nos discours, ni nos associations, ni nos églises établies, ni nos églises indépendantes. Nous nous plaignons que l'église contemporaine est sans prise sur les masses, et il ne lui manque peut-être pour les remuer profondément que de redevenir ce qu'elle fait profession d'être, l'église chrétienne. Il vaut au moins la peine d'essayer. Quand l'expérience en serait perdue pour le monde, elle ne le sera pas pour nous-mêmes, mais elle ne sera pas perdue même pour le monde, croyez-le bien. Ou si cet essai même vous paraît impraticable, si je ne puis vous parler des réalités de la vie chrétienne et de l'Église chrétienne sans vous paraître m'engager dans la région des chimères, tirez la conclusion vous-même et jugez si nous avons besoin d'une réforme. Cette triple réforme, mes frères, il nous la faut. Cette Église vivant de la vie divine, de la vie fraternelle, de la vie missionnaire, elle est dans les vues de Dieu, dans les aspirations de son peuple, dans les besoins de l'époque, et parce qu'elle est nécessaire, elle naîtra dans le temps de Dieu. Si ce n'est pas parmi nous, ce sera ailleurs. Si, à l'exemple de ces Gergéséniens, nous obligeons Jésus-Christ à se retirer de nos quartiers, il transportera son ministère avec ses bénédictions sur une terre mieux préparée. Nous pouvons bien repousser l'Église, nous ne pouvons pas la supprimer. Mais qui voudrait la repousser? Qui ne l'appellerait de tous ses vœux? Qui ne serait jaloux de lui offrir son toit pour abri et sa maison pour lieu de repos? Que si, en parlant de la sorte, je présume trop bien de la communauté à laquelle vous vous rattachez, si l'Église réformée de France, ou pour nous restreindre, si l'Église réformée de Paris ne peut pas ou ne veut pas être cette Église de Jérusalem, il vous reste un attendant, et pour hâter le jour où elle connaîtra mieux les choses qui appartiennent à sa paix, il vous reste, à vous, d'être vous-même cette Église modèle et de l'être aujourd'hui. Qui, vous? Vous, une poignée d'hommes que l'Esprit de Jérusalem anime tout seul? Vous, 100? Vous, 50? Vous, 20? Oui, vous, 100? Vous 50, vous 20, ou même si c'est trop demandé, vous 10, vous 5, vous 2, commencez. Commencez non dans la puissance de votre résolution humaine, mais dans la seule force de Dieu, par sa seule grâce et pour sa seule gloire. Oui, mon frère, oui, ma sœur, commencez, et votre exemple faisant des imitateurs, vous vérifierez cette belle image du psaume 72, qui est moins une image qu'une prophétie, portant sur le sujet même qui nous occupe. Une poignée de froment étant semée dans la terre au sommet des montagnes, son fruit mènera du bruit comme les arbres du Liban, et les hommes fleuriront dans les villes comme l'herbe sur la terre. Bien des âmes droites, mais timides, affamées et altérées de la justice, mais manquant d'énergie et d'initiative, n'attendent qu'un signal pour se lever et pour se consacrer sans réserve à leur divin maître. Qu'elles entendent seulement parler d'une société, si petite soit-elle, qui s'applique à faire de cette vie divine une réalité spirituelle, de cette vie fraternelle une réalité ecclésiastique, et de cette vie missionnaire une réalité sociale, et vous les verrez voler à vous comme les parcelles de fer vers l'aimant qui les attire. Les cœurs sont prêts, vous dis-je, il ne s'agit que d'une voie à ouvrir, moins encore que d'un signal à donner. Heureux ceux qui sauront le donner. Heureux ceux qui, devançant les temps de l'Église, feront entre eux tout ce qu'ils auraient à cœur de voir faire à l'Église. Heureux ceux qui formeront une sainte alliance pour entrer à plein dans la vie chrétienne et qui sauront se fier, pour le développement de leur œuvre naissante, à ce Dieu puissant qui, des 12 apôtres aux 70 disciples, des 70 aux 120, des 120 aux 3000, en attendant que ce soit des 5000 aux dizaines de mille, est arrivé à cette Église de Jérusalem que vous souhaitez de reproduire au milieu de nous. Ne vous laissez point troubler dans ce bon dessein par la pensée que notre Église, momentanément dépouillée par le malheur du temps, du bel ordre dont elle se glorifiait autrefois, est mal préparée à vous suivre dans vos pensées de régénération ecclésiastique. Prenez patience et attendez le Seigneur. Aussi bien cette position que Dieu et l'histoire vous ont faite est plus favorable peut-être à tout prendre à l'accomplissement de votre pieuse entreprise qu'aucune de celles que vous pourriez vous faire par votre propre choix, non seulement parce qu'elle vous maintient en rapport avec certaines racines cachées de réformes qui ne demandent qu'à venir au jour, mais encore parce qu'elle vous réduit par la nécessité des choses à l'emploi des moyens spirituels qui sont les plus purs et les plus sûrs de tous, sans laisser votre attention se distraire de ce qui fait le fond de votre ambition chrétienne, Jésus-Christ réalisé dans la vie des siens. Quoi qu'il en soit, la main à l'œuvre, où vous êtes, comme vous êtes, dites-vous bien qu'une seule condition vous suffit, un cœur plein de foi et de dévouement, d'une foi sans hésitation et d'un dévouement sans réserve. Ce cœur, l'avez-vous ? Toute la question est là. Si vous ne l'avez pas, vous ne valez rien pour l'œuvre d'aujourd'hui. Mais vous n'auriez pas valu davantage pour celle de Jérusalem. Mais, si vous l'avez, il se fera à lui-même un chemin nouveau, à défaut de route frayée, et rien ne vous sera impossible. Wesley ne demandait que 10 vrais méthodistes pour renouveler la face de l'Angleterre. Je le crois bien, ces 10 vrais méthodistes, ce seraient 10 apôtres. Avec 10 vrais protestants, je ne désespérerai de rien non plus pour l'Église réformée de France. Pour l'Église réformée de France, ai-je dit, mais ce n'est pas à elle seule que je pense pour cette glorieuse entreprise. Mon ambition va plus loin. La réforme que je veux pour notre Église, je la veux pour l'Église luthérienne, pour l'Église anglicane, pour les Églises indépendantes, et elles aussi la veulent pour elles-mêmes. Le travail qui s'opère parmi nous dans les esprits s'opère également ailleurs. L'Église, une Église nouvelle, est partout attendue, partout appelée. J'allais dire au nom de la religion, mais je pourrais ajouter au nom de la politique, dont elle peut seule apaiser les différends, au nom de la société, dont elle peut seule résoudre le problème, au nom de l'humanité, dont elle peut seule guérir les plaies. On le sent confusément, c'est par l'Église que le monde agité et bouleversé doit arriver à Jésus-Christ, et c'est par Jésus-Christ qu'il doit arriver à l'ordre, à la paix, à la prospérité après lesquelles soupire toute la race humaine. C'est le vœu, c'est le rêve, c'est le gémissement de toutes les communions chrétiennes, mais un vœu autour duquel se divisent les esprits, de cette division qui entre dans les vues de Dieu pour que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés. Je veux dire pour que les vrais chrétiens, révélés les uns aux autres, se donnent la main d'association dans l'œuvre commune. Dans l'Église luthérienne, à la poursuite de l'ordre nouveau, si les uns réveillent un Luther plus luthérien que celui du XVIe siècle et veulent à jamais fixer l'Église dans les pensées et les institutions d'un homme faillible, qui a saintement protesté d'avance contre un si aveugle hommage, les autres s'appliquent à mettre en saillie ce fond de la grâce évangélique que Luther a si merveilleusement relevé, qui a fait la réformation dans son cœur avant de la faire par lui dans le monde, et qui confond le vrai luthérien avec le vrai réformé et avec tous les vrais disciples de Jésus-Christ. Dans l'Église d'Angleterre, à la poursuite de l'ordre nouveau, si les uns s'évertuent à reconstruire l'Église cléricale et despotique dont leurs frères ont secoué le joug, comme s'ils étaient jaloux d'étouffer le fond sous les formes et d'absorber l'esprit dans l'ordonnance, les autres aspirent au contraire à dégager si bien le pur évangile et l'Église spirituelle qu'ils soient en harmonie avec tous ceux qui servent le Dieu vivant en esprit et en vérité et nous tendent une main fraternelle que nous serrons avec amour. Dans les Églises indépendantes, à la poursuite de l'ordre nouveau, si les uns s'efforcent de faire prédominer un esprit étroit et sectaire qui restreint la bénédiction divine à leurs seules affirmations, quand ce n'est pas à leur négation, les autres, touchés de ce qui leur manque à eux-mêmes, s'ouvrent à des pensées plus étendues et à des sentiments plus élevés qui tendent à unir les frères, non à les diviser, et qui préparent pour l'avenir l'Église commune des enfants de Dieu disséminée dans toutes les communions. Que dis-je, dans l'Église catholique romaine à l'Occident, comme dans l'Église catholique grecque à l'Orient, à la poursuite de l'ordre nouveau, si le grand nombre prétendent ressusciter les maximes exclusivement romaines et grecques qui ont perdu le Moyen-Âge et appelé une réformation, n'y en a-t-il pas d'autres qui sentent le besoin de pénétrer jusqu'à cette substance vivante de l'Évangile, jusqu'à ce trésor de rédemption et de régénération, jusqu'à ce cœur de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié qu'ils retiennent en commun avec les croyants de l'Église protestante. Partout, je vois poindre sur l'horizon un peuple de Dieu, petit par le nombre, mais grand par la foi et par l'amour, qui se détache des positions anciennes et qui se tient prêt pour l'Église spirituelle, fraternelle, missionnaire des temps à venir. Ô, puisse l'Esprit divin rapprocher ces âmes droites et fidèles, qui s'ébranlent de toutes parts, qui se cherchent comme en tâtonnant dans les ténèbres, qui se combattent peut-être faute de se connaître. Puisse se resserrer la sainte milice des enfants de Dieu, rassemblée, non pas au nom de l'indifférentisme qui efface les doctrines essentielles de l'Évangile, mais au nom de la foi commune qui les fait prédominer sur tout ce qui est secondaire, humain et local. Puisse venir cet ordre nouveau, après lequel la chrétienté tout entière soupire, pour accomplir la prophétie, pour réaliser l'Évangile, pour rappeler, pour effacer les jours de Jérusalem et pour fonder enfin sur la terre le royaume des cieux. Amen.